Bonjour professeur.
Bonjour madame.
L'actualité, vous le savez, est dominée aujourd'hui par la démission du premier ministre Mozito et la nomination d'un premier ministre intérimaire. Comment expliquez-vous cela?
Non, c'est pas tellement la nomination d'un premier ministre intérimaire, madame. Nous sommes là dans la procédure qui est prévue par notre constitution. L'Assemblée nationale est arrivée à terme, donc la législature de 5 ans s'est terminée, le jour où on a validé les mandats des nouveaux députés nationaux qui viennent d'être élus. Et comme le gouvernement a aussi un mandat de 5 ans, et ce mandat de 5 ans est lié au mandat de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que le gouvernement a été investi, non pas par le président de la République, mais par l'Assemblée nationale. Donc ça coïncide. C'est ainsi que le premier ministre Mozito a présenté non pas sa propre démission comme premier ministre, mais la démission du gouvernement, de manière à donner main libre au président de la République et à la nouvelle majorité issue des dernières élections législatives de mettre en place un nouveau gouvernement. Mais comme le premier ministre Mozito n'est pas en mesure d'expédier les affaires courantes, parce que quand le gouvernement démissionne, madame, il n'y a pas un vide. On ne peut pas concevoir que la RDC ne puisse pas avoir un gouvernement. C'est ainsi que le président de la République a désigné l'un de ses adjoints, donc M. Koyagalo, pour pouvoir expédier les affaires courantes du gouvernement comme premier ministre, qu'il faut bien comprendre les choses.
Est-ce que c'est légal, vous qui êtes constitutionnaliste?
Oui, mais c'est tout à fait. Nous sommes justement dans le droit. Comprenez, madame, un État doit fonctionner de manière permanente. C'est le principe bien connu de tous les juristes, le principe de la régularité du fonctionnement de l'État, de la continuité de l'État. On ne peut pas concevoir qu'il n'y ait pas de dirigeant de l'État, que l'État devienne comme ça une coquille vide sans animateur. On peut commencer par le stade de désignation d'un informateur, que si une majorité parlementaire n'existe pas. Or, il me semble qu'à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, il y a une majorité qui est bien circonscrite. Mais ça, c'est le choix du président de la République.
Et puisque vous parlez de continuité, ça va durer jusque quand?
Eh bien, l'article 78 prévoit comment on doit régler ce problème. Si il n'y a pas une majorité à l'Assemblée nationale, là, le président de la République désigne un informateur qui doit prendre des contacts avec les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale ou avec les indépendants pour savoir est-ce qu'il y a une majorité qui s'est dégagée. Il y a 500 députés à l'Assemblée nationale. Eh bien, on va savoir est-ce qu'il y a sur 500, plus de 250, donc la majorité absolue. Alors si l'informateur constate qu'une telle majorité existe, il fait le rapport au président de la République, et alors le président de la République prend contact avec les partis politiques, les chefs de ces partis qui sont présents à l'Assemblée, représentés à l'Assemblée nationale, pour désigner parmi eux un homme ou une femme qui va être nommé premier ministre, qui va former le gouvernement. L'informateur a un délai de 30 jours pour faire ce travail-là d'évaluation, des contacts, pour arriver à identifier une majorité à l'Assemblée nationale. Si au bout de 30 jours, il n'a toujours pas réussi à identifier une majorité, on lui ajoute encore 3 mois. Donc nous avons à peu près 60 jours pendant lesquels l'informateur doit faire ce travail d'identification ou même de faire des suicides.
Qui est l'informateur?
Pour le moment, le président de la République n'a pas encore désigné un informateur. Qui est l'informateur? Écoutez, le président de la République peut vous désigner vous-même, madame, pour faire ce travail-là. C'est le président qui désigne. Mais comme je vous ai dit, il peut aussi ne pas désigner un informateur dès lors qu'il constate que bon, la majorité est déjà claire, je ne sais pas.
Pour terminer, est-ce qu'on peut connaître les pouvoirs du premier ministre intérimaire? Quels sont ses pouvoirs?
Le premier ministre intérimaire n'a de pouvoirs, pendant l'expédition des affaires courantes, que les pouvoirs qui sont indiqués par le président de la République. Pourquoi? La période d'expédition des affaires courantes, madame, c'est une période délicate. Parce que nous avons un gouvernement qui a terminé son mandat et qui est parti. Ceux qui sont restés là-bas, si vous voulez, ils gardent la maison en attendant que le nouveau gouvernement arrive. Mais pendant le temps qu'ils gardent la maison, il faut qu'ils posent des actes parce que l'État doit fonctionner. Et comme c'est une période délicate, on ne peut pas accepter que ce gouvernement qui expédie les affaires courantes puisse poser certains actes de grande portée politique. Il ne peut pas conclure des conventions ou des traités avec d'autres États, par exemple, et mettre ainsi devant le fait accompli le gouvernement qui arrive. Il ne peut pas s'engager dans certaines dépenses, c'est-à-dire à des nominations ou à des mises en place, parce que dans notre pays, nous n'avons pas une loi sur les affaires courantes. C'est une lacune, et dans certains pays, des lois comme ça existent, comme en France. Et je pense que pour notre pays, qui est une jeune démocratie, il faut envisager, dans un avenir proche, que nous puissions aussi avoir une loi sur les affaires courantes pour éviter des tâtonnements, des interrogations. Eh bien, il faut maintenant bien encadrer tout ceci par une loi très claire, qui serait une loi de référence. Comme ça, on n'a pas à se poser des questions. Ben, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire pendant les affaires courantes, etc. Donc, il faut une loi. Ça existe dans certains pays. Ici, chez nous, je pense qu'il faut qu'on ait aussi une telle loi.
Merci, professeur, pour cet éclairage.
Merci, madame.